Bonjour à ceux qui ne déjeunent pas et donc qui préfèrent se rendre à la table ronde Un monde de la fantaisie, une cartographie de l'imaginaire avec Vincent Ferré, Régis Godin, Jean-Philippe Jaworski et, last but not least, Sylvie Miller. La fantaisie nous donne accès à des mondes imaginaires, à des mondes secondaires, dirait Tolkien, dotés de leur propre cohérence, de leur propre géographie notamment. On va parler de Tolkien et puis on va parler des romanciers contemporains qui s'en inspirent ou pas, mais qui construisent des mondes. Bien différents les uns des autres. Par ordre alphabétique, je vais commencer par présenter Vincent Ferré, qui est professeur de littérature comparée à l'UPEC, Université de Paris-Est Créteil. Alors, sa thèse portait sur l'essai fictionnel chez Proust, Dos Passos et Bror, et une bonne part de son travail porte toujours sur l'œuvre de Proust. Mais l'autre partie, que vous connaissez peut-être mieux, concerne Tolkien, dont il est le grand spécialiste français, avec « Sur les rivages de la Terre du Milieu » chez Christian Bourgois des 2001. Et puis je saute un certain nombre de titres pour arriver directement au dictionnaire Tolkien CNRS édition en 2012, son recueil Lire Tolkien chez Pocket qui est ici paru en 2014 et pour lequel il a reçu le prix spécial du jury d'Imaginal ainsi que pour les nouvelles traductions de Tolkien. Car en effet, il supervise aussi donc les éditions de Tolkien chez Christian Bourgois et donc les nouvelles traductions proposées par Daniel Lauzon du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ces dernières années. Régis Godin enseigne les arts plastiques à l'ESPE de l'Université d'Amiens et il est depuis 2010 un habitué des Imaginales puisqu'il vient nous y présenter chaque année les nouveaux tomes de son Heptalogie, Le sang des sept rois, paru chez l'Atalante, donc depuis 2010. Et là, le dernier volume, ça y est, c'est paru, c'est tout récent. Ce travail monumental est achevé et bien achevé. Donc ça nous présente sept royaumes et une intrigue complexe autour du sang bleu des rois. Il nous en dira bien sûr davantage. Sylvie Miller, alors enseigne aussi, c'est la table ronde enseignant, dans un lycée de Seine-Saint-Denis, puis elle est dans un IUT, ta fiche n'est pas à jour, et elle est donc une figure du milieu de l'imaginaire pour ses traductions. Elle a reçu pour son travail en faveur des littératures de l'imaginaire hispanophone le Grand Prix de l'imaginaire. Et puis en tant qu'auteur de fiction, nouvelles et romans, seul ou en duo avec Philippe Vard, notamment pour la série des Lacères, le détective des dieux, prix Imaginal pour le recueil Un privé sur le Nil. Et donc vous les avez ici. Et enfin, Jean-Philippe Jaworski, que j'ai présenté ce matin, et donc l'affiche est ailleurs. Je la trouve. Et oui, c'est... Donc il enseigne dans un lycée de Nancy. Il est auteur de jeux de rôle, je ne le retrouve pas, mais je peux le faire de tête, notamment donc du jeu de rôle historique Te Deum pour un massacre qui se déroule pendant les guerres de religion, sur fond de nuit de la Saint-Barthélemy, et puis pour ses œuvres romanesques, deux ensembles qui sont parus au Mouton électrique, puis chez Folio SF, Les récits du vieux royaume avec le recueil de nouvelles Yanois Vera et le roman Gagner la guerre et puis donc l'ex-trilogie désormais tétralogie Roi du monde sur les tribus celtes bituriges. Là, je m'en rappelle tu vois, de tout à l'heure. Donc les mondes, c'est a priori à Tolkien qu'on pense le premier quand on pense monde de fantasy, monde complet, monde cohérent. présentant ses propres peuples, sa propre géographie, ses langues, etc. Donc on va commencer par ce commencement-là. Est-ce que vous pouvez, Vincent Ferré, nous en dire plus, hein, nous rappeler ne serait-ce que cette genèse du monde tolkienien?
Bonjour à tous, merci beaucoup aux Imaginales, ça fait très plaisir de revenir un an après. Oui, et vous avez peut-être vu la grande librairie jeudi soir, hein, Twitter s'est affolé, parce que Pierre Lemaître, qui n'a visiblement jamais lu Tolkien, a dit « Ah non, moi j'aime pas Tolkien, c'est un monde clos, il y a trop de dragons ». Donc il a dû confondre avec Game of Thrones, et de un, et de deux, un monde clos. Et j'ai trouvé ça super, donc il y a des lecteurs de Tolkien qui m'ont averti en disant « Ah, il se passe quelque chose sur eux ». Bon, d'accord. Pierre Lemaître. Et en fait, oui, c'est très amusant. Et donc, François Bunel a pris la défense de Tolkien. On sait que c'est un grand lecteur de Tolkien. Donc, c'est vrai que Tolkien est associé à l'idée de monde, qu'on le veuille ou non. Et Tom Chippet, dans un livre dont la traduction française va paraître chez Bragelonne à l'automne, disait que seul un auteur travaillant, ayant un métier à côté, en l'occurrence enseignant, donc ne travaillant pas comme auteur à plein temps, seul un auteur n'ayant pas de contraintes commerciales, de production, d'édition de ses textes, pouvait se permettre de passer 17 ans à écrire un roman situé dans un monde aussi complet. Parce que dans la salle, vous êtes certainement pour beaucoup lecteurs de Tolkien ou amateurs des films de Peter Jackson, qui paraît-il ont un rapport avec Tolkien, vous savez qu'il y a un monde dans lequel on est plongé d'emblée, et vraiment bien dans le premier film de Peter Jackson, après ça se gâte. Bon. Dans le premier film, on entre dans l'univers vraiment, et il y a une forme de crédibilité. Et je me souviens de discussions passionnantes avec Anne Besson quand elle écrivait sa thèse, qui a donné donc naissance à ce livre sur les cycles en littérature de l'imaginaire. Et quand Anne commençait à tirer un fil de la pelote, en disant voilà, telle chanson qui est chantée dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une source mentionnée dans Le Seigneur des Anneaux, et est-ce que cette source existe réellement dans l'œuvre de Tolkien? Et c'est vrai que c'est la grande gifle qu'on se prend quand on lit Tolkien, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche à tirer, à approfondir une piste, il y a la réponse à la question, parce qu'il y a tout un univers à l'arrière-plan. Et donc je termine ma réponse simplement en disant, ce monde de Tolkien, c'est sa marque de fabrique, et en même temps, contrairement à ce qu'on dit souvent, et à ce que donc croit cet auteur qui n'a pas lu Tolkien, c'est pas un monde coupé de notre réel, c'est au contraire un monde qui nous parle du réel, qui est né du réel, à la fois de l'amour pour la nature et pour le monde réel, et en même temps de l'expérience du monde réel, et en particulier de la Première Guerre mondiale.
Ça va très bien, il y aurait des choses à poursuivre sur cet exemple-là, mais on va commencer par faire un premier tour de table. Jean-Philippe Jaworski, on sait à combien l'influence de Tolkien, le modèle de Tolkien a été important pour vos premiers pas d'auteur de jeux de rôle au départ. Et donc, comment est-ce que vous ressaisissez cette ambition de la création de monde?
Je pense que la création du monde, provient d'abord d'un désir d'évasion. Quelle meilleure évasion que de trouver de nouveaux mondes ou de retrouver de nouveaux mondes en ce qui concerne Tolkien. On est dans un monde qui se réduit de plus en plus, tout simplement parce qu'il est intégralement cartographié, connu, parce que les distances sont de plus en plus courtes. Et en conséquence... Je pense que quand on cherche à s'évader, que ce soit de façon romanesque ou de façon ludique, on cherche de nouveaux horizons. Et là, le monde secondaire, le monde fictif, nous offre de nouveaux horizons. Donc je pense que c'est ça qui m'a fasciné d'abord en tant que lecteur, enfin pas qui m'a fasciné, qui m'a enchanté, pour reprendre le terme de Tolkien. Et c'est ça que j'ai essayé de retrouver, que ce soit au travers du jeu de rôle, où justement on offre de nouveaux horizons à ses joueurs, et puis à travers de l'écriture romanesque, où on s'efforce aussi, dans le cadre de la fantasy en tout cas, d'offrir de nouveaux horizons aux lecteurs.
Et objectif de cohérence, de vraisemblance, tolkienien également?
Oui, autant que faire se feu. Plutôt plus un objectif de vraisemblance. Je pense que le modèle tolkienien au niveau de la cohérence dont parlait Vincent Ferré, du fait que quand on cherche une source, on la trouve. Et non seulement on la trouve, mais je pense aussi qu'on la trouve sous différentes variantes. Ça, c'est vraiment difficile de le recréer, à moins de consacrer effectivement toute une vie, parce que Tolkien consacre finalement l'essentiel de sa vie à la création de la Terre du Milieu. Au minimum, donner l'illusion de cette cohérence.
Régis Godin, on a pu parler davantage au début des C3 d'un modèle qui aurait été celui de George Martin. même si vous ne l'avez jamais revendiqué comme ça. Alors, voilà, est-ce que vous avez un modèle pour votre création de monde et comment est-ce que vous l'avez construit ?
Disons qu'il faut admettre qu'il y a une diversité d'archétypes. Chez Tolkien, on a quelque chose qui est extrêmement construit. Je ne suis pas un spécialiste de Tolkien, mais en tout cas, c'est une influence pour tous. Voilà. Qu'on suive la voie ou bien qu'on s'y oppose, il est tout à fait évident qu'il est extrêmement difficile de se désencombrer de quelque chose qui est antécédent, qui est aussi puissant et aussi fort. C'est un archétype culturel, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Fritz Leiber, qui est à peu près dans la même période et qui a fabriqué une fantaisie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus décalée déjà, et qui est aussi
le
quelque chose de très intéressant.
Le Fafre et le souricier gris.
Oui, voilà, de Fafeur, je ne sais pas comment il faut le dire. Rien que l'idée dans un roman de fabriquer un prénom imprononçable, c'est le premier pied de nez qui nous attend dès les premières pages. Et on a quelque chose qui n'est pas un monument, naturellement, comme Le Seigneur des Anneaux, mais qui va comme ça de touche en touche, de nouvelles en épisodes, nous enfoncer aussi dans des univers qui sont pour moi extrêmement inspirants. Voilà. Jusqu'à l'idée d'avoir un océan, une mer intérieure, voilà, cette espèce de monde annulaire un petit peu. Il y a aussi une carte, et il y a aussi donc des enjeux géographiques. À partir du moment où il y a un océan extérieur, une mer intérieure et pas de passage, voilà, c'est déjà le début d'une histoire. Alors, s'agissant de Martine, naturellement, c'est un autre archétype. C'est un autre archétype qui est plus récent et dont j'ai tiré plutôt des problèmes de structure narrative, beaucoup plus que des univers géographiques. L'univers géographique, bon, naturellement, on prend l'Angleterre, on va y remettre quelques autres mondes, continents autour et on fait des liaisons. C'est quelque chose que Tolkien a fait aussi. On s'inspire de la géographie réelle. On va à un moment donné la recomposer en ce sens que finalement, composer une carte et un décor, c'est quand même poser des paysages sur une cartographie mentale qu'on va se faire donc de ces univers un peu imaginaires. Ce que j'ai repris sur le plan archétypal vraiment à Gérard Martin, c'est l'idée de partir d'un petit fil narratif de rien du tout. Il trouve des loups-garous, voilà. Ça a l'air relativement banal, moins que ça, il y a longtemps que ça ne s'est pas produit, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et subitement, ce fil narratif se divise, se redivise, se redivise. Alors quand il y en a trop, on coupe une branche, bien sûr. Il faut bien élaguer un peu, sinon on ne sait plus où on va. Mais finalement, dans ce qui m'a vraiment intéressé dans le travail donc, de Martine, c'est que c'est finalement la démultiplication des branches qui nous mène à explorer cet univers sur le plan géographique. Et donc effectivement, c'est une dynamique qui est complètement différente dans la représentation de l'espace, intellectuel de l'espace. Je trouve. Et ce ne sont pas des modèles qui s'opposent, je pense qu'ils se complètent. Je pense que Martin lui-même, s'il avait une idée de la géographie, je soupçonne qu'il ne la connaissait pas entière au moment où il a commencé. C'est-à-dire que c'est un scripturant, c'est quelqu'un, je pense, hein, à la lecture de son livre, c'est quelqu'un qui va inventer l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déploie. Et à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans une situation où, quand il va faire déplacer quelqu'un, il va se dire, bon, il va arriver où ? Et je pense que c'est une structure qui est plus additive qu'une structure qui est peut-être fabriquée d'avance, un petit peu comme chez Tolkien. Non, c'est peut-être pas le cas, mais c'est comme ça que c'est mon regard de lecteur. Oui, c'est mon regard de lecteur en tout cas, et voilà.
Non, je me permettais de réagir tout de suite parce que ça donne cette impression-là parce qu'on lit maintenant l'œuvre terminée. Mais vous savez qu'en fait, Tolkien, quand il a écrit Le Hobbit, a utilisé des noms propres qu'il a réutilisés après dans Le Seigneur des Anneaux parce qu'on lui demandait la suite. Mais il y a une lettre très célèbre où il explique qu'il se promène dans son univers et qu'il décrit les choses au fur et à mesure comme narrateur, comme s'il promenait sa caméra. Donc c'est pour ça que je me permettais de réagir. Nous, la réception du Seigneur des Anneaux, c'est qu'on a l'impression d'être face à quelque chose de complètement achevé. Alors qu'en fait, il a vraiment écrit au fil de la plume. Et si on consulte les brouillons de Tolkien publiés dans ce qu'on appelle l'histoire de la Terre du Milieu, on s'aperçoit en réalité qu'il y a plusieurs départs. Tolkien était très doué pour écrire des débuts d'histoire. Il y a plusieurs possibilités. Il explique à plusieurs reprises avoir été surpris par ce qu'est réellement la Moria, ce qu'est la Lorienne. Et il y a cette phrase assez amusante en disant « Mais je ne m'attendais pas à ce que Faramir sorte des bois comme ça. » Voilà. Donc notre impression finale...
J'ai rencontré Grand Pas.
C'est ça, à l'arpenteur. Donc en fait, il y a l'impression finale et puis le processus d'écriture qui est un peu différent.
Oui, non, mais garde-le. Régis Godin parlait de recomposer une géographie existante. Donc c'est davantage à ça qu'on a affaire dans le monde de la serre, qui est donc un monde lui aussi construit, même s'il ne ressemble pas à ces mondes de fantasy classiques.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un monde de fantasy et il a été complètement reconstruit en partant de la géographie du monde dans les années 30, mais avec la structure, les structures politiques et géographiques de l'Antiquité qui auraient perduré. Donc on s'est demandé que serait le monde dans les années 30 si effectivement on avait toujours l'Empire romain, les pharaons égyptiens, etc. Et donc la serre se promène là-dedans. Et donc la difficulté, ça a été d'une part de faire énormément de recherches, parce que curieusement, il a fallu beaucoup construire le monde pour que le personnage soit cohérent à l'intérieur de ça, même si on n'utilise qu'une toute petite partie des recherches. Mais lorsque Lasserre, dans les années 30, se déplace en voiture du centre du Caire pour aller sur le plateau de Gizeh, il traverse un pont, il tourne à gauche, il passe au milieu des palmiers. Enfin, on a travaillé sur des plans des années 30, par exemple. Lorsque on décrit un temple qui est encore debout, il y a eu des tas de recherches sur tout ce qui s'est écrit déjà sur au niveau des lieux tel que décrit par les archéologues, et également sur tout le travail qui a été fait après dans les recherches, avec notamment toutes ces reconstitutions en 3D qui sont faites pour dire, voilà, quand c'était debout, ça devait être comme ci, comme ça, il devait y avoir tel pigment utilisé pour les peintures. Enfin, la construction est beaucoup plus complète qu'il n'y paraît, et les lecteurs nous ont signalé effectivement que ça donnait beaucoup de cohérence au lieu. On a également fait des recherches sur ce que les gens mangeaient à l'époque antique, et qu'est-ce que ça pourrait donner. Et d'ailleurs, on a découvert qu'il y a des survivances dans les recettes modernes d'un tas de recettes traditionnelles qui ensuite ont été un peu adaptées, transformées. Et ça a été passionnant, toutes ces recherches. Et ça construit ce monde. Et du coup, ça nous permet en plus de remettre les dieux au milieu, de jouer sur des intrigues entre dieux, sur des intrigues politiques. Et on a notamment dans le tome 3, Mystère en Atlantide, on fait sortir Lasserre d'Égypte puisqu'il part à la recherche de l'Atlantide. Et là, ça nous permet de le promener sur tout le pourtour méditerranéen. Il va en Crète, il va dans les îles Sporades. Ensuite, il repart dans l'autre sens. Il arrive en Ibérie. Et dans le tome 4, on va l'emmener dans l'Empire romain. Dans cet empire romain moderne, l'italien, finalement, c'est un peu la langue populaire, mais le latin est resté une espèce de langue officielle pour tous les documents officiels et qui se parle au niveau parmi les diplomates. Donc ça a été assez amusant de jouer avec tous ces codes et de complètement reconstruire cet univers-là.
Oui, donc un univers beaucoup plus en arrière-plan, beaucoup plus vaste que ce que l'intrigue n'en laisse voir, et en même temps le lecteur a conscience et a plaisir à sentir cet arrière-plan. Régis Godin, est-ce que vous aviez préparé votre monde, construit votre monde à l'avance? Est-ce qu'il a justement cet arrière-fond dans lequel vous ne faisiez que puiser ensuite? Vous êtes un des seuls qui a une carte, par exemple.
Non, j'ai rien préparé d'avance. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas de fiche personnage. Oui, il y en a une à l'intérieur. Il a bien fallu en faire une pour, à un moment donné, que vous y retrouviez. Et donc, je n'ai pas de fiche personnage. Je n'ai pas de plan pour le livre. Hein, celui que j'écris actuellement, on n'en connaît pas la fin. Je ne sais pas ce qui va passer dans le chapitre d'après. Donc, là encore, c'est une autre manière d'écrire. Je ne suis pas le seul. Il y en a quelques-uns qui écrivent comme ça, qu'on dit scripturants, hein, voilà, et qui vont au fur et à mesure de l'écriture se poser tout simplement des questions qui sont les questions de la vie, c'est-à-dire ce personnage que je vais retrouver au début de ce chapitre-là, quand l'ai-je quitté, il y a combien de temps que je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a obtenu entre les deux, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir maintenant et qu'est-ce qu'il va faire pour l'obtenir. Et à partir de ce moment-là, il suffit d'écrire la chronique finalement des personnages au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, qu'ils vont vivre, et on va découvrir la cartographie, qu'elle soit géographique ou bien qu'elle soit politique ou bien quelle qu'elle soit, on la découvre par leurs yeux et par leurs actes, en fait. Et effectivement, c'est une manière d'écrire qui n'est pas angoissante du tout, parce qu'effectivement, à un moment donné, pour moi, c'est des questions vraiment d'approche, je trouve que la cohérence de l'univers, c'est un peu la cohérence de la vie. Voilà, c'est la cohérence de la vie, parce que quand on arrive au monde, on ne sait pas non plus où on met les pieds, on ne sait pas parler, on ne comprend pas ce qu'on vous... Enfin, je m'en souviens très très bien. On ne sait pas non plus, on ne comprend pas bien ce qu'on vous raconte. Et il va falloir qu'on se fasse là aussi notre propre cheminement et qu'on construise finalement notre propre cartographie linguistique, relationnelle, géographique, en fonction des expériences. Et je trouve ça fascinant quand je fais intervenir un personnage qui rentre en scène. je ne savais pas qu'elle allait rentrer en scène et je ne le connais pas. Et c'est très intéressant de se dire que je vais faire connaissance au fur et à mesure donc du feuilleton qui s'écrit jour par jour, que ce sont ses actes et ses réactions qui vont lui donner une personnalité. Un peu comme quand je vous rencontre aujourd'hui, je ne vous connais pas, si on discute à un moment donné, eh bien c'est les échanges, c'est au fur et à mesure que je vous verrai vivre dans un temps même court, que je me ferai une idée un petit peu de qui vous êtes. Et effectivement, je crois, et pour reprendre le mot de Pierre Bordage, c'est l'écriture qui structure. C'est-à-dire que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de structure, mais c'est qu'à un moment donné, au fil de l'écriture, eh bien, on va se poser des questions. Voilà, dans une situation donnée, que va-t-il faire? Mais pourquoi le fait-il? Quelles sont les contraintes sociales, les contraintes géographiques qui vont le pousser à faire quelque chose? Et je pense, là encore, n'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises sur Tolkien, je ne suis pas spécialiste, mais à un moment donné, quand il va arriver, il y a une montagne, soit il passe par au-dessus, soit il passe par en-dessous. Il ne vole pas. Donc, à un moment donné, quand il arrive, je crois que c'est un peu comme ça que ça se produit. On va arriver, on se dit, il y a un obstacle, il faut trouver une autre solution. Et ça se construit peut-être de cette manière-là aussi dans le roman, parce que au fur et à mesure que les obstacles s'érigent, ça pousse le lecteur à suivre finalement les héros dans d'autres paysages, d'autres caractéristiques qui font partie aussi de nos paysages mentaux à nous. Parce qu'on sait qu'on peut passer au-dessus de la montagne, qu'il peut y avoir des grottes, qu'il peut y avoir des déserts, des forêts. Et tout cela constitue un patrimoine commun entre l'auteur et finalement le lecteur, autour duquel on va pouvoir en jouer comme de personnages. Et c'est ça qui m'intéresse quand on parlait de Faramir qui sort de la forêt est un personnage. Et dans le sang des sept rois, le personnage géographique que je n'avais pas encore beaucoup vu dans mes lectures, hein, c'est le courant. Voilà. Et à un moment donné, comme ça, quand je me suis dit, pour en revenir et rendre la parole aux autres, je me dis, bon, à quoi ressemble ce continent? Je suis allé voir des différents états de la Pangée. La Pangée, ce supercontinent qui s'est fragmenté pour fabriquer la géographie que nous connaissons aujourd'hui. Et j'ai trouvé une carte de la Pangée très intéressante dans laquelle il y avait une mer intérieure avec une grande île, c'était pas un archipel, mais un courant entrant et un courant sortant. Avec comme ça tout un jeu autour du globe de courant. Et ce courant est devenu, bien que je ne le sache pas au début de l'écriture, est devenu une des données importantes de l'histoire. Et autrement dit, ces cohérences qu'on arrive, c'est tout simplement parce que les gens doivent faire des choix. Et si on veut que l'histoire reste cohérente, il faut que nos choix, à nous d'écrivains, soient cohérents aussi. Voilà. Et je pense que la cohérence vient justement par le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on est obligé, au fur et à mesure qu'on avance, d'enraciner l'histoire. Voilà.
Vincent Ferré, a priori, donc chez Tolkien, les cartes sont préexistent à l'histoire, mais en même temps, elles se construisent beaucoup plus, de manière beaucoup plus progressive que, là encore, ce qu'on peut penser aujourd'hui. Les cartes, les appendices, tout cet appareil documentaire qui donne une profondeur au monde de la Terre du Milieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire
plus? Alors, déjà, les cartes, on connaît celles du Seigneur des Anneaux. On connaît celle du Hobbit. Pendant longtemps, il était indiqué lapin avant qu'il y ait une nouvelle traduction. Je signale pour ceux que ça intéresse que des versions en haute définition ont été mises en ligne sur le site officiel de la famille Tolkien qui s'appelle Tolkien Estate. Vous savez, l'estate, donc tolkienestate.com. Il y a plein de cartes qui sont à la Bodleiane et qui ont été scannées. Et c'est vraiment un choc de les voir dans différents états, comme le dit Anne. Certaines à l'état d'esquisse et d'autres à l'état vraiment terminé et absolument magnifique. Donc, Tolkien l'a bien dit, pour le Seigneur des Anneaux, on a besoin de faire d'abord une carte, puisque vous le savez, à un moment donné, je ne vais pas faire de spoiler, mais les personnages se séparent. Et donc, on a besoin d'une carte pour savoir où est qui, à quel endroit. Mais rien n'empêche effectivement que la carte bouge. C'est un des éléments qui ont en tout cas été imités par la suite par un certain nombre d'écrivains ultérieurs, comme le dit Anne Besson, qui vient accompagner donc la dimension géographique, qui vient accompagner la dimension historique et la dimension linguistique. Parmi les choses qu'on sait, c'est que Tolkien était un inventeur de langues. Il enseignait la littérature et les langues médiévales à Oxford. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a à la bibliothèque Bodleiane, donc à Oxford, là où il était enseignant, autant de pages consacrées aux langues, puisqu'il a inventé une cinquantaine de langues à des degrés divers, donc, autant de pages consacrées aux langues qu'il y a de pages de fiction. C'est-à-dire, si vous ajoutez tout le Seigneur des Anneaux, les Enfants de Hurin, le Hobbit, je ne vais pas tous les faire, le Silmarillion, dans tous leurs états, vous obtenez un sacré paquet de feuilles. Ben, vous imaginez qu'il y en a autant uniquement sur les langues inventées par Tolkien. Ceux d'entre vous qui font des études de lettres ou de langues savent ont suivi des cours où on explique comment on passe du latin à l'ancien français, au moyen français, au moyen moderne, au français moderne. Tolkien a fait ça pour l'elfique, par exemple. Par goût des sonorités. Et aussi parce qu'il avait envie de savoir quel genre de langue elfique on parlait dans telle région de son monde. Et lors d'une conférence à Evian, Damien Bador avait fait une carte des migrations des elfes. Parce qu'on suit leurs histoires dans le Silmarillion, mais on peut voir comment vraiment il y a des flux migratoires, ils se déplacent et comment les langues se mélangent. Donc la géographie, l'histoire, les langues dans l'univers de Tolkien, ça forme vraiment un tout. Et on en a des traces très amusantes dans Le Seigneur des Anneaux, où on a des indications d'une conception un peu discutable de la langue. Quand Tolkien explique que les Rohirrim ont une langue qui correspond à leur pays, rude et rocailleuse. Linguistiquement, c'est assez osé comme idée. Ou l'idée que chez les elfes, le mot qui désigne un objet a à voir par ses sonorités avec cet objet même-là. On sait comment ça s'appelle. Hein, c'est le cratylisme, mais c'est combattu, évidemment. Le mot chien ne mord pas, dit-on. Pour Tolkien, si. Le mot qui veut dire chien en elfique.
Il essaye de retrouver un état où voilà, le mot chien premier. Mordait.
Et après, en suivant l'histoire de la langue au cours des millénaires qui constitue son univers.
Est-ce que vous... Cratylisme, C-R-A-T-Y, c'est de cratyl.
Du dialogue de Platon.
Un dialogue de Platon, c'est vrai.
C-R-A-T-Y.
Vous avez raison. Jean-Philippe Jaworski, est-ce que vous entrez dans ce degré de détail? Quand on est créateur de jeux de rôle, on est obligé de détailler le monde du jeu en un degré de minutie assez extrême. C'est pas la même chose pour le roman?
Ça dépend. Ça dépend de choses. Soit on est dans un monde secondaire dans le roman, on a besoin effectivement d'avoir une idée au moins générale de l'univers dans lequel se déroule la fiction. Dans le jeu de rôle, bien sûr, on en a besoin urgent parce que les joueurs ne font jamais ce que le meneur de jeu attend. Ils partent toujours dans un coin de la carte qu'on n'a pas prévu, donc on a besoin quand même d'avoir prévu un certain nombre de choses. L'approche est un peu différente. Quand on joue dans un univers historique ou quand on écrit dans un univers historique et quand on joue ou quand on écrit dans un univers secondaire. Dans l'univers historique, on a déjà les cartes, il suffit d'aller les chercher et ensuite on va adapter la fiction à la géographie telle qu'elle existe. Dans l'univers secondaire, a priori, on peut faire plier la géographie au récit. Et donc réviser la carte pour les besoins de l'histoire, ce qui est plus compliqué à faire dans le cadre d'une fiction historique. Cela dit, j'ai une approche qui est différente en tant que maître de jeu et en tant que romancier, même si j'ai écrit des nouvelles et des romans sur un univers dans lequel j'ai fait jouer. En tant que maître de jeu et en tant qu'auteur de jeux de rôle, je vais fournir quand même des cartes à mes joueurs. En tant que romancier, je vais souvent, pour l'instant en tout cas, je m'abstiens de fournir des cartes. Parce que la carte, en fait, elle nous donne une appréhension de la géographie moderne en surplomb. Alors certes, grâce à la carte, on s'approprie le territoire, mais en fait, on est vraiment en surplomb. Et moi, ce qui m'intéresse, aussi bien d'ailleurs en jeu pour mes joueurs que pour mes lecteurs, c'est de placer le lecteur ou le joueur en immersion. Et dans des sociétés anciennes, puisque moi, mes centres d'intérêt vont plutôt vers les sociétés anciennes, les cartes n'existent pas. Chez Tolkien, les cartes existent. Les hobbits vont consulter des cartes et se repèrent ensuite d'après les cartes consultées.
Sauf les cancres. À cul-de-sac, au début, il y a une carte avec beaucoup de zones blanches. À un moment donné, si vous vous rappelez, dans la forêt de Fangorn, quand Merry et Pipin sont perdus, Pipin se dit « si seulement j'avais regardé les cartes au lieu de faire l'école buissonnière en permanence ». Donc ça rejoint exactement ce que tu dis, à savoir immersion dans l'histoire. Et on ne sait pas où on est. Il y a des orques qui nous ont emmenés, qui nous avaient traversé des lieux et des lieux dans les plaines, et on ne sait pas où on est.
Oui, mais le lecteur, lui, peut regarder la carte.
Mais ce qui m'intéresse d'autant plus que, en tant que romancier, moi j'utilise, en tant que romancier, pas forcément en tant que nouvelliste, mais en tant que romancier, j'utilise beaucoup de narrateurs personnages. Donc je m'efforce d'immerger vraiment le lecteur. Et dans des sociétés médiévales ou renaissance, les cartes existent mais sont rarissimes. Dans une société antique, comme c'est le cas pour le cycle dans lequel je travaille, les cartes n'existent pas. Même l'appréhension qu'on a de la géographie dans les sociétés antiques, c'est une appréhension qui est de l'ordre du discours et pas de la représentation visuelle. Les premières géographies, ce sont des textes Et ça va durer pendant très longtemps, puisqu'au XVIe siècle, on continue à écrire des cosmographies, donc des ouvrages qui décrivent le monde, mais pas qui représentent le monde. Donc j'essaye, alors c'est mon intention, est-ce que je réussis, ça c'est au public d'en juger, mais j'essaye de placer le public dans la situation du voyageur de ces sociétés anciennes, qui n'a pas de repères cartographiques.
Sylvie Miller, est-ce qu'on peut imaginer des annexes, des appendices de la serre avec, je sais pas, le panthéon de telle ou telle mythologie, voilà, des
ça existe
choses,
des déjà.
Bonus. Ouais, c'est vrai.
Il y a un site, laserdetective.com, qu'on est en train d'alimenter, sur lequel,
c'est
par exemple, on met les recettes de cuisine de ce qu'ils mangent dans le livre, la description des voitures. Et puis à la fois les aspects historiques et puis nous ce qu'on en fait, parce qu'il y a des voitures des années 30 qui sont des vraies voitures qui ont été produites à quelques modèles et évidemment c'est les dieux qui les possèdent. On compte mettre aussi des cartes des lieux, des descriptions des lieux en disant nous ce qu'on en a utilisé mais ce que c'était à l'époque. Il y a les dieux également, il y a des choses sur les personnages, donc le site est en création mais il est déjà, on peut déjà le visiter et petit à petit on va l'enrichir pour montrer justement toutes ces recherches et tout ce monde qui a été développé derrière une histoire qui est apparemment légère mais qui finalement est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Et du coup d'ailleurs le site va être obligé de se développer parce que pour l'instant on n'a que la partie Égypte, mais on va être obligé aussi de parler de la Mésopotamie, de la Grèce, de l'Empire romain, et puis dans le tome 5, on retourne chez les Celtes et les Gaulois. Donc,
on va retourner chez Jean-Philippe Jaworski. Donc, Internet est vraiment effectivement un espace idéal, et ces histoires de bonus transmédia retrouvent le fonctionnement des appendices tolkieniens, en fait.
Absolument. Et en plus, c'est un outil qui est vraiment très facile à mettre en œuvre, puisqu'il suffit de mettre en ligne. Ensuite, les gens vont aller chercher ça. Et en plus, avec les liens hypertextes, ça facilite aussi la consultation, la recherche. Chacun, à travers la structure, l'arborescence, va aller consulter ce qui lui plaît. Et on ne s'interdit pas après aussi de remettre des liens vers des sources sur lesquelles on a travaillé. Alors bon, merci beaucoup Gallica, la BNF. Ça, j'avoue que la numérisation des archives de la BNF, c'est un vrai trésor pour la personne qui veut justement construire des mondes, parce qu'on y trouve énormément de choses. Mais c'est un travail énorme à faire en parallèle. Mais c'est très enrichissant.
Et est-ce que vous... j'avais pas prévu de poser cette question, mais je trouve ça très intéressant. Est-ce que les uns comme les autres, vous avez des fans qui font ça sur vos mondes, c'est-à-dire qui les documentent, qui les archivent, et sur lesquels vous pourriez vous appuyer ou vous mettre en lien pour avoir déjà un premier travail de fait, parce que c'est une attitude des fans de Tolkien, des fans de Martin, etc., d'essayer d'en savoir plus sur leur monde et puis de structurer autant que possible les données de façon documentaire.
Eh bien, pas pour le sang des 7-3, parce qu'il n'y a pas encore une notoriété qui naturellement dépasse les frontières. J'ai eu la surprise d'avoir, il y a assez peu de temps, lors d'une signature, quelqu'un qui est venu avec une des chansons que j'ai écrites à l'intérieur du livre, mis en musique.
C'est assez
amusant. Donc il me l'a envoyé, je l'avais mis sur le Facebook. Et c'est assez rigolo, parce qu'effectivement, derrière, quand les univers sont un peu riches, effectivement, je pense que les gens ont tendance à vouloir prolonger un peu l'expérience, l'expérience de visite. Et ça, c'était à Rennes, à Nantes. J'ai dit parce que j'ai fait les deux signatures en deux jours, mais c'était donc à Nantes. Et donc il y a quelqu'un. Alors il y a sa fille qui chante, lui joue de la guitare. Derrière, il y a des gens qui applaudissent. Voilà, toute une mise en scène comme ça. Et c'est assez drôle. Mais c'est propice à ce genre de choses, je pense.
Pour nous, c'est un petit peu comme pour toi, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore la notoriété qui fait qu'on aurait des millions de fans.
Non,
mais par contre, j'ai déjà eu la surprise sur une séance de dédicace d'une personne qui venait chercher le tome 3 ou le tome 4, je ne sais plus, et qui m'a dit « Ah là là, j'ai trouvé sur le site, j'ai déjà testé telle recette, on a bien mangé. » Ça a été un peu compliqué de trouver les ingrédients, mais on s'est débrouillé et j'avais l'impression de manger chez les pharaons, donc c'était très très drôle.
Oui, tout à fait, c'est une expérience d'appropriation du monde qui est possible. Bon, l'exemple de Tolkien est évidemment assez massif là-dessus.
On peut quand même dire qu'en France, au moment de l'arrivée d'Internet, parce que je suis assez vieux pour l'avoir vu arriver, on va dire en 97-98, le développement d'Internet en France, vous pouvez me contredire, parmi les sites les plus actifs, ça a été vraiment le web tolkienien francophone. C'était très impressionnant. Et bien sûr, du côté anglais, la naissance d'encyclopédies, comme l'encyclopédie Darda, avant même Wikipédia. Donc maintenant, la question du modèle encyclopédique a vraiment accompagné la manière dont Tolkien a été lu et dont les internautes se sont appropriés Tolkien. Donc je parle d'Arda, je parle des différents sites français. Et d'autre part, de Wikipédia, bien sûr, il y a un portail de la Terre du Milieu en langue anglaise, en langue française. Et le matériau semble très, très propice à ce genre de réorganisation, une hiérarchisation des informations. Mais alors du coup, c'est autant de manières de donner. Quand tout à l'heure Régis parlait, j'avais l'impression d'un écrivain avec une palette, enfin d'un peintre avec une palette de possibilités. J'ai une forêt, j'ai une montagne, voilà. Et du coup, j'ai l'impression que les encyclopédies en ligne à partir du monde de Tolkien sont autant de... C'est presque Minecraft, en fait. C'est-à-dire qu'on peut piocher là-dedans ce qu'on veut et recombiner autrement, comme on veut, et inventer un petit récit de fantasy. J'ai vu que c'est l'intelligence artificielle d'Amazon, c'est ça, qui commence à produire des récits à l'eau de rose. Faudrait voir ce que ça donne en termes de combinaison pour les littératures de l'imaginaire. Voilà.
Jean-Philippe Jaworski, il y a ce type d'initiative autour de votre...
Il y a quelques initiatives. Alors, c'est un petit peu particulier. Moi, ce sont des rôlistes, des joueurs de jeux de rôle, qui me réclament en fait des cartes. Bien sûr, ce qui est logique. Il y en a certaines qui existent en ce qui concerne le Vieux Royaume, mais elles sont vraiment très localisées. C'est des lieux dans lesquels j'ai fait jouer ma table de jeu et que j'ai mise sur Internet. Mais la carte du continent, elle n'existe pas. Et donc, il y a des joueurs qui se sont efforcés de reconstituer des cartes. J'ai eu une expérience très drôle où j'ai vu mes propres limites apparaître. Un petit point, on peut être prof de français et avoir un passé de dyslexie. J'ai eu un petit problème de latéralité quand j'étais enfant. Et j'en ai conservé des traces. Hein. Le permis de conduire, c'était compliqué. Hein. Tourner à gauche, je tourne à droite. Hein. Pour en revenir à la façon dont certains joueurs se sont appropriés le texte, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec moi, qui a construit une carte de l'ensemble du continent de la Transestrie en s'appuyant en particulier sur une nouvelle, Comment Blandin fut perdu, qui donne beaucoup d'indications géographiques. Et puis, quand il l'a fini, il me l'a envoyé. Alors là, j'ai eu une expérience d'inquiétante étrangeté. La carte était complètement fidèle, mais rigoureusement inversée. J'avais une carte miroir de l'univers. D'abord, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais quand même, elle est exacte, mais complètement inverse. Et puis j'ai repris le texte et je me suis rendu compte que c'était moi qui avais, avec mon problème de latéralité, inversé l'Est et l'Ouest dans la nouvelle. Donc le cartographe avait été absolument fidèle au texte et c'était moi qui m'étais complètement trompé dans l'organisation Est-Ouest du récit.
Donc il y a effectivement une demande du public à laquelle Internet permet de répondre pour entrer toujours davantage dans ces mondes secondaires que vous proposez. J'avais envie de parler encore des origines géographiques des sources de l'imaginaire. La géographie réelle, elle a un rôle dans la serre. Elle a un rôle aussi, donc on va commencer par toi, dans la tétralogie des rois du monde où on redécouvre des lieux familiers de manière totalement on n'y reconnaît pas du tout. Bon, vas-y, commence sur cette réinvention de... Et puis ce voyage dans des panthéons...
Oui. Alors, en fait, ce voyage dans les différents panthéons, dans les remontées qu'on a des lecteurs, et puis dans nous, la manière dont on a réagi quand on les a écrits, c'est qu'on a l'impression, d'un côté, d'avoir quelque chose d'extrêmement familier, puisqu'on est sur des lieux, sur des villes qui sont finalement pas loin de nous, puisque les années 30, on retrouve quand même... on a des mondes avec des voitures, les voitures de l'époque, mais il y a encore des chameaux qui circulent au milieu, des ânes, des charrettes. On a des avions, les premiers avions à hélice, puisque le moteur à réaction n'a pas été inventé. On a des dirigeables. Donc, on est quand même sur des choses proches. Et en même temps, on est très loin, puisque... Quand on va sur le plateau de Gizeh, on a 9 pyramides, parce que forcément, il y en a eu qui se sont ajoutées. On est aussi dans des palais antiques qui sont encore debout, avec des structures de villes qui sont encore à l'ancienne. Donc on a à la fois cette impression de grande proximité et de choses très étranges. Et c'est aussi ça qui produit cet effet de monde de fantaisie qui n'est pas notre monde à nous.
Et de la même façon, c'est des panthéons qui sont familiers. Ah, c'est des dieux qu'on a croisés dans nos études à un moment ou à un autre, ou quand on lisait des mythes quand on était petit, mais qui sont retravaillés avec énormément de fantaisie.
Ils sont retravaillés avec énormément de fantaisie, mais comique aussi, tout en respectant, on retrouve bien toutes les histoires de famille, on retrouve bien les caractéristiques de ces différents dieux, mais il a fallu les faire vivre, leur donner davantage d'humour. Et il y a notamment dans le tome 4 une scène un peu d'anthologie où Isis et Vénus se jettent à la tête leurs histoires de famille respectives. Et il s'en est passé des choses entre les incestes et le reste. C'est assez croustillant.
Alors, dans un style très différent, Jean-Philippe Jaworski, moi, c'est ce qui m'a frappé dans Même pas mort, c'est quand on réfléchit à ce que ces villes sont devenues. Enfin, voilà, c'est des lieux tout à fait banals de France, voire voilà, parmi ceux où il se passe peut-être le moins de choses, hein, dans le centre, le désert français. Et en fait, voilà, ils sont complètement. La vision du personnage nous permet de les voir d'une manière réenchantée, extrêmement troublante. Hein.
Oui, mon but, c'était de donner le sentiment au lecteur de l'altérité, de circuler dans un monde vraiment de fantaisie, un monde secondaire, même si effectivement, derrière, on a Morlaix, Néry-les-Bains, Chartres, Bourges, puisque ce sont les villes qu'elles sont devenues. Alors, ça me force à travailler avec la carte. Alors, j'utilise aussi Internet, j'utilise pas mal Google. Ça me force aussi à travailler pour rechercher les noms antiques avec tous les faux amis, puisqu'on a un certain nombre de noms de villes françaises qui sont en fait soit d'origine germanique, donc beaucoup plus tardive, soit d'origine latine. Il me semble que c'est le cas d'Épinal d'ailleurs. Même les noms d'origine gauloise, il faut s'en méfier parce qu'il y a un certain nombre de noms d'origine gauloise en fait qui n'ont été établis qu'au moment de l'époque gallo-romaine. Donc je vais chercher les noms archaïques, j'essaye de retrouver la toponymie pré-romaine je m'efforce aussi d'effacer ou de renommer les noms celtes, mais qui nous sont trop familiers. J'en parlais ce matin. Il y a une partie de l'action qui se déroule à Avaricum, donc Bourges. Mais Avaricum, c'est vraiment connu à travers la guerre des Gaules de César. C'est un des grands sièges de la guerre des Gaules. Il y a une partie de l'action qui se déroule chez les Arvernes. Chez les Arvernes, Gergovie est très connue à cause de la guerre des Gaules. Et je craignais que ces deux noms, finalement, ramènent le lecteur à un imaginaire du 1er siècle de notre ère, de l'invasion romaine, pourquoi pas Astérix. J'en avais un peu peur, donc j'ai essayé de contourner à chaque fois la difficulté en retrouvant, pour Avaricum, je l'ai appelé le guet d'Avara, c'est son sens précis, hein, puisqu'en fait c'était un guet sur l'Avara. Et en ce qui concerne Gergovie, je l'ai évité au profit d'une ville voisine citée par Strabon, Nemosos, pour essayer de maintenir le lecteur le plus loin possible de ses repères familiers en France, pour que l'univers de la Gaule antique soit vraiment l'équivalent d'un univers secondaire. Ça me semble important parce que j'ai pas mal de lecteurs d'ailleurs qui me demandent une carte, mais finalement la carte que je leur fournirai sera une carte française avec des noms antiques. Et le problème pour moi, c'est qu'en voyant la carte française, alors certes on se situe, on sait où sont les personnages, mais on risque d'y plaquer nos repères contemporains. La France de nos jours, en voiture on la traverse en une journée, en avion on la traverse en une heure. À la fin du Moyen-Âge, traverser la France, ça demande 20 jours. Donc, l'appréhension des paysages, de l'espace est radicalement différente. Et moi, ce que je veux, c'est que pour mon lecteur, il y ait une plongée dans les paysages de l'époque. On est héroïque quand on traverse 20 jours de territoire hostile. On ne l'est pas du tout quand on traverse la France sur l'autoroute. Et il y a le risque... Il y a le risque, oui, quoi que, oui, c'est vrai. Hein. Il y a le risque, pour moi, que le lecteur plaque sur ce monde secondaire ses repères contemporains et qu'il perde une partie de sa saveur.
Puisque l'expression de monde secondaire a été utilisée par Jean-Philippe, on peut rappeler qu'elle est employée assez couramment, qu'elle vient de Tolkien, de son essai qui s'appelle « Du conte de fées », vous le connaissez. Dans cet essai, Tolkien explique comment on peut prélever des couleurs du monde réel, le bleu du ciel, le jaune du soleil, le vert de l'herbe, je me trompe toujours, et les remettre dans un ordre différent. Donc on voit que c'est le ciel, le soleil et l'herbe, mais les couleurs sont différentes. Donc à la fois, on a une impression de proximité et une impression d'étrangeté. Et ça soulève deux questions. La première, c'est l'intérêt de cette manière de transformer légèrement le monde réel. Pour Tolkien, c'est une façon d'inviter le lecteur à regarder le monde autrement. Et l'autre question, c'est, elle est plus technique, c'est celle du degré d'étrangeté ou de merveilleux qu'on va injecter dans son univers. Vous le savez, quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux, les hobbits, c'est nous. C'est, en fait, ils ne croient pas aux Ents, ils ne croient pas à la magie, ils croient juste dans le nombre de repas qu'ils font par jour. Il n'empêche qu'ils sont bien obligés d'admettre qu'il y a des arbres qui marchent. Et parmi les choses intéressantes sur le plan des techniques de Tolkien, il y a la manière dont il nous amène petit à petit à entrer dans le récit en faisant tomber nos préjugés à l'égard de la magie. En gros, au début, dans la première partie du Seigneur des Anneaux, Gandalf, il a un sort de lumière et un sort de feu. Hein. C'est tout. Et ben, Gandalf le blanc, c'est autre chose. Et plusieurs personnages dans le récit servent de relais aux lecteurs modernes. On sait comment les cavaliers du Rohan, par exemple, sont absolument stupéfaits de rencontrer un hobbit et disent donc, les légendes vraiment viennent à la vie, ce qui avait été dit existe réellement. Et donc, chez les auteurs de fantasy, je pense que c'est un axe de réflexion vraiment important quand on est lecteur. Moi, je suis vraiment un lecteur amateur par rapport à toutes les personnes qui sont ici, mais c'est la manière dont ils vont doser, ou elles vont doser, la présence de magie et donc le léger décalage avec le monde référence, ou bien au contraire la rupture totale. Et on oublie souvent que la Terre du Milieu, c'est vraiment l'Europe, il y a des milliers d'années, et que Hobbiton, c'est Oxford. Et que Minas Tirith est à la latitude de Florence, bon, ça dépend, Florence, Byzance, etc. Donc il y a un léger décalage, mais sans que ce soit une rupture totale. Donc ça rejoint exactement ce que tu viens de dire sur le choix des noms propres pour défamiliariser le lecteur tout en lui permettant de se raccrocher sans plaquer de choses extérieures.
Régis Godin, vous avez fait le choix toponymique un peu assez extrême d'appeler vos royaumes premier royaume, deuxième royaume, troisième royaume, donc de ne pas rattacher a priori ces lieux à des consonances qui seraient familières. Est-ce que c'était justement pour les laisser libres à votre imagination? Est-ce que vos royaumes sont reliés à des lieux existants?
Non, absolument pas. C'est une partie de ce roman qui n'est pas encore écrite. Parce que forcément, à partir du moment où j'ai commencé, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, il faut que je trouve des justifications sur ce que j'avance. Et donc, j'ai maintenant autant de matière sur ce qui se passe avant le début de ce roman que sur ce qui se passe dans le roman. Et cette question-là, c'est pas un spoiler de manière extrêmement importante la partie d'un livre qui n'existera peut-être jamais. L'idée générale, c'est qu'à un moment donné, après donc une période de troubles, la société s'est reconstituée à partir donc d'un leader charismatique qui est parti d'un point de départ, et ils ont tourné autour de ce monde annulaire en le divisant en morceaux parce qu'ils étaient sept tout simplement. Et ils se sont attribués, chacun d'entre eux s'est attribué un morceau, et donc voilà, ça c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le quatrième, et c'est une cartographie qui s'est construite d'une manière circulaire, lors d'une espèce d'envahissement après une période de troubles dans lequel il restait plus grand monde de vivants sur cette terre-là. C'est des parts de camembert, si vous voulez. C'est pour ça que cette question d'onomastique n'est pas importante. Contrairement à ce qu'on peut imaginer peut-être à l'intérieur, c'est le signe qu'on n'est pas dans une tradition celtique, on n'est pas dans une tradition médiévale dans laquelle il y a un ancrage historique de sociétés qui se sont construites avec les siècles. À un moment donné, elles se sont construites de manière purement administrative, comme on a découpé l'Afrique un peu. Voilà. C'est pour ça que ce sont des traits droits, pratiquement. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu l'idée de numéroter. Voilà, numéroter. D'ailleurs, quand on regarde sur la carte, il n'y a rien sur la carte. C'est-à-dire que ça vient tout simplement du fait qu'on n'a pas besoin de connaître le nom des villes qu'on ne visitera jamais. C'est pas très intéressant pour moi, et en plus je ne connais pas le nom de ces villes là donc à un moment donné, quand je fais apparaître les personnages dans une ville, je dis bon, comment je vais l'appeler celle-là? Bon, voilà. Donc je trouve un nom générique, ça me va très bien, parce que c'est pas l'enjeu de ce livre. L'enjeu de ce livre, c'est que c'est un roman d'aventure. Voilà. Et l'aventure se passe très bien, de très jolis noms de villes. Alors je finis par en mettre un de nom, mais bon, franchement c'est pas ce qui me passionne.
Régis Godin, l'anti-Tolkien.
Non, c'est pas anti-Tolkien, et c'est tout simplement que c'est une autre manière d'écrire, une autre manière de construire, de développer le paysage d'une manière extrêmement intuitive. Et puis aussi, il faut revenir à la genèse de ce livre-là. C'est-à-dire que moi, je suis un enseignant en art plastique. J'ai enseigné les arts appliqués. Je suis autodidacte. Et quand j'ai commencé à écrire dans le train, je n'avais pas vraiment l'idée que ça allait être édité un jour, parce que j'avais déjà une grosse quarantaine d'années, si vous voulez. Et bon, à 16 ans, on sait que le monde nous attend. Voilà. À 43 ans, on regarde les statistiques et on sait que sur 1500 manuscrits qui arrivent chez un éditeur, il y en a entre 0 et 2 qui sont publiés par an. Et donc, c'est vraiment né comme comme on tricote dans le train, quoi. Voilà. Et donc, j'avais pas de raison de donner des noms et de fabriquer quelque chose de conséquent, parce que c'était pour moi, c'était un petit plaisir du jour. Donc, alors je me suis dit, comment je les nomme? Finalement, j'ai eu cette idée donc du partage. Ça me suffisait complètement. Et une fois que c'était écrit, ça faisait partie de l'histoire de ce roman-là, parce que si vous mettez, certains d'entre vous écrivent, je le sais, et donc vous le savez, quand on écrit même 1000 mots par jour, au bout de 3 mois et demi, on a 400 pages, et je l'ai envoyé comme ça, en disant, maintenant elle vivra sa vie, et puis j'ai continué d'écrire mon histoire, mais j'ai pas eu le besoin de fabriquer une structure géographique, sociopolitique extrêmement détaillée, parce que c'était mon feuilleton du matin et du soir dans le train, simplement. Je n'avais pas d'autre ambition littéraire que celle-là. Et ça justifie complètement. Donc, ce n'est pas du tout une position anti-qui que ce soit.
Non,
c'était juste un loisir.
Il y a ceux qui construisent le monde. Dans le train, tu aurais pu construire un monde,
oui,
avec des noms. Avec des noms et partir des...
Peut-être, mais c'est un peu...
Et tu as choisi d'écrire une histoire.
Par contre...
Et le monde se construisait.
Tout à fait. Mais il se développe comme un feuilleton. Voilà, comme un feuilleton. Mm. Et autrement dit, quand on est sur un feuilleton, au fur et à mesure, puisque j'écrivais une heure le matin, une heure le soir, c'est après le temps que j'avais en train à ce moment-là, et ensuite je trichais et je réécrivais un peu à la maison quand j'étais rentré, à chaque fois, je me retrouvais dans une nouvelle difficulté, mais je n'avais pas du tout pensé la cartographie, les généalogies en amont. Je ne savais pas qui allait arriver à l'intérieur. Et je ne sais toujours pas. C'est toujours pas ce qui m'intéresse.
Alors, lisez l'essai 3 pour savoir où on en est arrivé dans ce feuilleton. La Serre, un roi du monde et les récits du vieux royaume. Lisez, relisez Tolkien, bien entendu, et ce qu'en dit Vincent Ferré. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.
Merci à vous.